La France sera le berceau de la démocratie.
De la collaboration.
Des droits de l'homme.
De la colonisation.
Du suffrage universel.
De la guerre d'Algérie.
Les briques en Bresse, le pavé dans la mare.
Avec Briques et Pavés, l'émission qui dégrange. Et bienvenue sur Briques et Pavés, l'émission qui
dérange.
Avec aujourd'hui dans le studio de Radio B, derrière les micros, confortablement installés, nous avons
Philippe,
Agnès,
Franck,
David, alias Dédé,
Christelle,
Raoul,
Florine,
Odette
et Émilie. Briques et Pavés, c'est l'émission imaginée et construite par les bénévoles de la Grange aux
Parapluies,
association située à Saint-Julien-sur-Ressouze, également espace de vie sociale. Chaque mois, vous découvrez une nouvelle émission, soit purement musicale, soit sur un thème qui nous tient
à cœur.
Ce mois-ci, la question que l'on se pose est « De quoi sommes-nous encore esclaves aujourd'hui ?» J'ai envie de dire que nous avions l'embarras du choix. Esclaves du téléphone, de la clope, de nos banques, esclaves des normes, du travail, de la mode, du numérique et même esclaves du temps qui passe. Alors justement, passons ensemble 45 minutes avec nos reporters sans frontières, frontières de Brest bien sûr, pour réfléchir à ce sujet. Et sans vouloir vous rendre esclave de votre radio, on vous invite néanmoins à ne pas couper. Et voici Agnès qui prend le micro. Et c'est l'occasion pour nous de lui souhaiter un
joyeux anniversaire.
Et Agnès, c'est à toi.
Eh oui, de quoi sommes-nous esclaves aujourd'hui? Lorsque nous nous sommes posé cette question, le film Fursi, né libre, allait sortir en salle. Je n'ai malheureusement pas pu aller le voir, mais me suis intéressée aux articles à son sujet, et surtout à cette interview du réalisateur Abdelmalik pour France Info Culture le 14 janvier 2026. Il y parle du cinéma comme d'un miroir d'humanité, de l'importance du verbe et de l'histoire que l'on raconte, du créole, la langue de la dignité, de la liberté, de la singularité et du combat. Il y parle de notre démarche qui tient compte d'une intention inclusive qui magnifie nos principes, nos valeurs. Souligne que le fait d'être français, ce n'est pas une couleur de peau, pas un sexe, pas une religion, mais le fait d'adhérer à des valeurs, à des principes. C'est le fait de parler de la beauté du génie français. Et il y parle beaucoup de l'éducation et de ce que le savoir peut apporter, ce qui m'a forcément touchée. Voilà ce que dit Abdelmalik. J'ai lu le livre, je me suis dit « Fursi, c'est moi ». Parce que s'il n'avait pas appris à lire et à écrire en cachette, c'était illégal pour un esclave. Rien de tout cela n'aurait été possible. Moi, avec mon histoire, les quartiers populaires, les cités, cette problématique-là, si je n'avais pas été introduit au savoir et à l'éducation, je ne serais pas là devant vous, en train de faire cette interview. D'une certaine manière, pour Fursi comme pour moi, l'éducation nous a permis de transcender notre condition. Fursi, encore une fois, c'est précisément parce qu'il était dans cette dynamique, j'ai presque envie de dire intellectuelle, qui n'a pas choisi la violence d'être marron, mais qu'il a utilisé le droit. Et en prenant le droit, il a pris l'arme du colon et l'a retournée contre lui. Et la conclusion d'Abdelmalik laisse poindre l'espoir du faire ensemble, de faire peuple, de faire nation. L'éducation, le savoir, la culture, c'est précisément ce qui fait que d'un point de vue individuel, on peut créer des solidarités avec d'autres pour travailler ensemble et s'employer d'une certaine manière à faire gagner la lumière. La démocratie, étymologiquement, c'est le pouvoir du peuple. Cela renvoie à des gens qui se mettent ensemble, qui disent non à la bêtise, à l'ignorance, au fascisme. C'est ce que Fursi a fait, et cela part au commencement d'un élément individuel et personnel, l'éducation. Sur ce, nous allons écouter Eric Cantona, Les droits des ROI GTS.
Opposants politiques, révolutionnaires, journalistes, travailleurs, ordinaires. Là-bas, aux quatre coins du monde, de tout l'univers à la ronde. Les procès des incendiaires volontaires, jugés devant d'immenses parterres de vieux loups affamés. aux aguets. Justice universelle sous influence, qui, au-delà du réel, mène la danse, pour que parfaitement tout roule, et qu'un jour satisfaite soit la foule. Tout y est, dans des coffres scellés, avant que n'ait été prononcé, du haut de leur biblique refuge, les verdicts de messieurs les juges.
L'homme n'a plus ses droits, il ne lui reste que ses doigts pour à ses bandes de tordus, mais leur faut trop pur. L'homme n'a plus ses droits, il ne lui reste que ses doigts pour à ses bandes de tordus, mais leur faut trop pur.
Je reprends le micro et j'ai la chance, voire l'honneur, d'interviewer Odette et Raoul Boulard du groupe mondialement connu Odette et Raoul Boulard et les Tilolites de l'espace.
Wow !
Et bienvenue à vous deux dans le studio de Radio B. Allez, parlez-nous un petit peu, voire beaucoup de vous. Qui êtes-vous ?
Nous sommes Odette
et Raoul Boulard, le duo rétro-pop superstar.
Et nous sommes très contents d'être sur les ondes de Radio B aujourd'hui à Bourg-en-Bresse.
Tout à fait. Nous sommes auteurs et compositeurs, interprètes. Et nous souhaitons apporter au public et au monde de la beauté, de l'enthousiasme, de la poésie, de l'amour à travers nos chansons.
Wow. Nous nous produisons d'abord en duo, guitare électrique et chant.
Et nous avons rencontré les Tilolites de l'espace, nos amis extraterrestres, qui nous ont confortés dans notre mission de propagation des ondes de l'amour universel. Et nous avons décidé de nous produire ensemble dans une formation co-galactique, Loulite, Odette et Raoul Boulard et les Tilolites de l'espace.
Extra.
Donc une formation électropop.
Oui, plutôt, oui.
Yeah. Et on a eu la chance de vous voir, les amis, lors du calendrier de l'aventure en décembre dernier, lors du festival de spectacle chez l'habitant. Alors dites-nous voir comment vous avez vécu ce format plutôt intimiste, vous qui tournez d'habitude sur des scènes beaucoup plus importantes. Quels souvenirs il vous reste de ce moment ?
Eh bien, ça a été un moment très très agréable. On a vraiment beaucoup apprécié le public attentif et très réceptif. À l'écoute des textes. Ça a été vraiment un super moment. On salue d'ailleurs l'organisation qui a été au top et l'accueil chaleureux de Christian et de Claire. Ça donne vraiment envie de recommencer.
Yes, peut-être l'année prochaine.
Peut-être, on espère.
Je confirme que c'était vraiment, vraiment top de vous entendre. Est-ce que, dites voir, est-ce que vous avez une chanson dont vous êtes particulièrement fière et pourquoi ?
Oui, la dernière, notre dernier bébé, qui s'appelle « Mon système solaire ».
C'est ma préférée.
On a été très, très enthousiastes lors de la création. Et cet enthousiasme nous a tout de suite donné envie de le partager et de faire chanter le public, ce qu'on fait d'ailleurs en concert. Et le concert au calendrier de l'aventure a été la première expérience de ça. Et ça a été vraiment super de voir le public s'enthousiasmer avec nous et chanter en chœur ce super refrain.
Qui reste tellement en tête, je l'ai encore et j'ai encore envie de le chanter. On se le fait ?
Allez.
On se le fait.
En direct ?
Mais bien sûr.
Et toi, tu es la plus belle des planètes qui rayonnent dans mon système solaire. Et toi, tu es la plus belle des planètes qui rayonnent dans mon système solaire.
Wow, merci.
Live Radio B.
Et là, on l'a dans la tête pour quelques jours. Alors, les amis, on vous a invités aujourd'hui pour parler de l'esclavage. Alors, pour vous, les artistes, dites-nous voir de quoi vous êtes esclave aujourd'hui.
Ah ben, pour ma part, le mot esclavage est peut-être un petit peu fort puisque je suis descendant. Ma maman est martiniquaise, donc je suis descendant de la grande histoire du commerce triangulaire. Donc, on serait plus sur des termes de... Qu'est-ce qu'on avait trouvé ?
De dépendance.
Dépendance, oui.
D'être, voilà, nous sommes tributaires d'abord du public,
Voilà, oui. Parce que l'enthousiasme qu'on a quand on crée nos morceaux, et voilà, on a toujours cette crainte de est-ce que cet enthousiasme va être partagé par le public. Et on a de la chance parce que jusque-là, on rencontre quand même un partage de cet enthousiasme. Et ça fait vraiment plaisir.
Tellement.
Voilà, on est tributaire du public. On dépend aussi de la confiance que pourraient nous faire les programmateurs. Pour se faire connaître du public, il faut jouer. Pour se jouer, faut se faire programmer. Et pour se faire programmer, faut jouer. Oui. Donc, du coup, on est un peu dans un système qui se mord la queue. Voilà, on a un peu l'impression d'être dans une période aussi où s'installe une appréhension de la création, de la nouveauté. Ce qui est nouveau fait peur, on a peur de l'inconnu et le connu rassure. Et ce qu'on remarque un petit peu, n'est-ce pas Raoul, c'est une recrudescence et un certain succès des groupes de covers et de reprises, parce que on est dans quelque chose qui rassure, on entend des morceaux qu'on connaît, qui ont fait leurs preuves, et on est sûr de ne pas être déçu. Alors on prend un peu plus de risques à programmer un groupe co-galactique avec des extraterrestres dont on ignore encore tout. Ceci dit, on est quand même content de l'accueil général et de l'enthousiasme que suscite notre projet et de la confiance qu'on nous témoigne, dont on a bénéficié lors du Festivrac l'année dernière en juillet. La Cava Musique aussi, on va faire une résidence le 22 avril. On va enchaîner tout de suite après cette résidence avec notre prestation tant attendue à l'espace culturel Maison Colin le 7 mai.
Génial. Je crois bien qu'on y sera. Le 7 mai, à quelle heure vous passez?
Alors, ça, c'est 20h30, concert co-galactique de Loulite, qui sera suivi d'une boom avec DJ 45.
Ça va danser.
Alias Eric Pro.
Voilà, DJ 45, c'est le DJ set d'Eric Pro.
La Maison Colin, c'est à Saint-Jean-sur-Ressouze. Oh, j'avais un doute.
The place to be.
J'ai eu un doute.
Donc, notez bien la date dans vos agendas pour venir découvrir ou revoir Odette et Raoul Boulard qui seront avec les Tiloulites de l'espace.
Le 7 mai avec les Tiloulites de l'espace, oui.
Bon, les dates sont bien notées. Merci à vous deux d'être venus. Et puis maintenant, on écoute Odette et Raoul Boulard avec leur chanson Chic Choc Big Bang. Merci.
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 C'est un moment où tout son camp. Big Bang, surgit le boomerang, celui qui donne l'envie d'être contre, oui tout contre, chic choc Big Bang, elle hypnotise, elle libère, elle tétanise, elle prospère, l'envie d'être contre.
Pendant près de 500 ans, l'Europe organise la déportation de plusieurs millions d'Africains, hommes, femmes, enfants, vers les Amériques dans l'unique but de s'enrichir. La dramatique traite transatlantique des esclaves est le chapitre le plus meurtrier de l'histoire humaine. Dans ce système parfaitement orchestré, navires français, britanniques, hollandais, portugais et espagnols, d'où l'Europe, sillonne l'océan Atlantique avec une seule règle, ne jamais voyager à vide. Le commerce triangulaire désigne donc les routes commerciales établies entre le XVIe et le milieu du XIXe, entre l'Europe, l'Afrique de l'Ouest et les colonies d'Amérique, soit les trois pointes du triangle. L'objectif est cynique, et je pèse mes mots et reste poli, puisqu'il s'agit de maximiser les profits. Les navires européens partent chargés de marchandises, transportent entre l'Afrique et l'Amérique des millions d'êtres humains réduits en esclavage et reviennent avec des denrées coloniales que les marchands écoulent en Europe. Le capitalisme a beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé ce commerce triangulaire et son corollaire, bien sûr, la traite négrière. Alors pourquoi les Européens ont-ils eu recours à des esclaves africains ? Les Européens font d'abord travailler les Amérindiens. Mais rapidement, ces populations autochtones, décimées par des maladies importées par les colons, justement, variole et grippe, et puis les mauvais traitements subis, ne suffisent plus. Les Amérindiens ne suffisent plus. Pour les remplacer, les propriétaires terriens recrutent d'abord des Européens, parmi les plus misérables, des bons esclaves aussi. Engagés pour 3 ans au service d'un maître, ils défrichent les terres, établissent les plantations, mais les conditions sont trop rudes et ces « engagés » entre guillemets manquent à l'appel. Les puissances coloniales finissent par se tourner vers une nouvelle source de main-d'œuvre, l'Afrique. Près de 35 000 expéditions négrières ont été recensées, ce qui a entraîné la déportation de 15 millions d'Africains vers les Amériques. Et on estime que le taux de mortalité pendant les traversées, en moyenne, atteignait 15%. En 1999, Christiane Taubira, députée de Guyane, présente à l'Assemblée nationale sa proposition de loi tendant à la reconnaissance de la traite et de l'esclavage en tant que crime contre l'humanité. Environ 150 ans après l'abolition de l'esclavage, la France devient donc le premier pays au monde à adopter une telle loi. Je m'arrête là et je vous laisse écouter une chanson édifiante d'Édith Piaf. Nous sommes au milieu des années 1930. Je vous laisse juge de cette chanson.
Soleil de feu sur la mer rouge, pas une vague, rien ne bouge. Dessus la mer, un vieux cargo qui s'en va jusqu'à Bornéo. Et dans la soute pleure un nègre, un pauvre nègre, un nègre maigre, un nègre maigre dont les os semble vouloir trouer la peau. Oh yo, oh yo, monsieur bon Dieu, c'est pas gentil. Moi pas vouloir quitter pays, moi voulu voir le grand bateau qui crache du feu et marche sur l'eau. Et sur le pont moi j'ai dormi, alors bateau il est parti. Et capitaine a dit comme ça, nègre au charbon, il travaillera. Monsieur bon Dieu, c'est pas gentil, moi pas vouloir quitter pays. Oh yo, oh yo. Toujours plus loin au bout du monde, le vieux cargo poursuit sa ronde. Le monde est grand, toujours des ports, toujours plus loin, en bord des ports. Et dans la soute pleure un nègre, un pauvre nègre, un nègre maigre, un nègre maigre dont les os semblent vouloir trouer la peau. Oh yo, oh yo, monsieur bon Dieu, c'est pas gentil, y en a maintenant perdu pays.
Vous êtes toujours sur Radio B avec Briques et Pavés, l'émission qui...
Dégrange !
Nous accueillons Christelle. Christelle, lorsqu'on lui a posé la question, pour toi, de quoi est-ce que tu es ou tu as été esclave aujourd'hui ? Tu as eu une réponse qui était le travail. Alors pourquoi cette réponse ? Pourquoi le travail ?
Eh bien, le travail, parce qu'on y passe déjà 70 000 heures à travailler dans une vie. C'est énorme. Parce que la première question qu'on te pose quand on fait connaissance, c'est... Tu fais quoi dans la vie ? Sous-entendu, tu taffes dans quoi ? C'est quoi ton métier ? Parce que les travailleurs sont toujours en train de dire vivement les vacances ou pire, vivement la retraite, mais jamais vivement demain que je retrouve mes collègues. Parce que Nietzsche disait « Celui qui n'a pas les deux tiers de sa journée pour lui-même est esclave. »
Oh, merci pour cette citation vraiment pleine de sens. Et du coup, toi, tu as voulu t'attarder sur la valeur travail, mais dis-nous voir d'où vient ce mot.
Alors, l'origine du mot « travail » a plusieurs hypothèses. On parle de tripalium, un élément de torture, mais on n'en est pas certain. Trabz, c'est une poutre, ça évoque l'idée d'une entrave, d'une contrainte pour l'homme. Trans, ce serait un voyage avec des obstacles. Dans tous les cas, ça ne ressemble pas à quelque chose de très libertaire. Si on parcourt l'histoire, au départ, le travail a permis de répondre à nos besoins propres. Nous nourrir, par exemple, en cultivant notre jardin. Puis il a contribué à l'organisation de la société. Une diminution du temps de travail, amélioration de nos conditions de vie. Une valeur assez essentielle dans nos vies.
Alors aujourd'hui, du coup, si je t'entends bien, le travail ne serait plus vraiment un signe d'épanouissement. Pourquoi ça a basculé comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé?
Alors, si on passe toute l'histoire du commerce triangulaire qu'on a eu, moi je parlerais d'industrialisation, mécanisation, productivité, taylorisme, capitalisme et j'en passe. Une déconnexion lente et progressive depuis le 19e siècle entre travail et sens, dans le seul but d'accélérer, de faire croître le PIB, d'enrichir une nation, peu importe si le profit n'est plus vraiment lié au travail, pourvu qu'il serve la société. Servitude, tout est lié. Et on entend, dès le plus jeune âge, « Travaille bien à l'école, hein, tu pourras choisir ta vie. » Mais la vie est-elle le travail? Vous voulez disserter?
Eh bien, ça sent le vécu tout ça. Tu peux nous raconter un peu plus du coup ton parcours, ton histoire professionnelle, personnelle?
Eh bien, oui, je vais vous raconter. Donc, j'ai fait des études, j'ai obtenu un beau diplôme d'ingénieur. J'allais donc être heureuse et épanouie.
Bien sûr.
C'est vrai que c'est pratique pour décrocher un statut social. Dans mon travail, je me suis retrouvée propulsée au milieu des cravates grises, des bonhommes bien assis dans leur vie de cadre et surtout au centre de code très fermé. Et cette nouvelle vie, bah, tu finis par te persuader que c'est ça, c'est la seule, vraie et unique. Tu oublies d'où tu es venue. Pourquoi s'étonner d'une telle situation, puisqu'elle répond parfaitement à l'épanouissement vendu par notre société? Faire du chiffre avec ton travail, disposer d'un bon pouvoir d'achat et dépenser beaucoup d'argent pour contribuer à engraisser encore le PIB.
Et travailler pour acheter une voiture, et acheter une voiture pour aller travailler, etc. etc.
Et bienvenue dans la roue du hamster. Plus de travail, plus de responsabilité, plus de salaire, plus de pouvoir d'achat, mais aussi encore plus de travail et surtout moins de temps et moins de sens.
Intéressant. Et du coup, pour toi, être ingénieur, c'était pas forcément un métier passion?
Alors, être ingénieur, c'est la garantie d'être baigné dans un système capitaliste qui t'impose ses règles. Aucune liberté de décider autrement, car c'est le monde du marché. Et puis, être ingénieur, c'est souvent travailler pour des entreprises cracra. J'aime bien ce terme utilisé par mon ancienne collègue. Fabriquer des produits qui non seulement ne servent à rien, mais pire, détruisent notre planète. Tout ça pour le progrès à tout prix et la consommation de masse. Bref, j'ai fini par être esclave de mon travail. Je ne me levais plus que pour gagner ma vie.
Et oui, et du coup, gagner sa vie, est-ce que gagner de l'argent ou gagner du temps de vie? Ouais, toi Christelle, comment t'as réussi du coup au final à te sortir de cette roue infernale?
Eh bien, disons qu'à force d'incompréhension, j'étais devenue aigrie par mon travail. Et un soir, après une discussion assez douloureuse quand même, j'ai compris que je ne changerais pas les gens qui m'entourent et que j'avais besoin de temps pour réfléchir. Certains, malheureusement, ils sont contraints après un burn-out, par exemple. Si ça, c'est pas une conséquence directe d'une forme d'esclavage. Bref, heureusement, j'ai évité cette étape et j'ai dit « Je demande le divorce ». Et j'ai quitté ce monde dit parfait, avec un bon salaire, un métier valorisé, etc., etc. Cette sensation de liberté extraordinaire. Je ne savais pas où j'allais exactement, mais je pouvais enfin respirer et prendre un temps pour réfléchir à mes vraies inspirations et tenter de renouer avec mes vraies valeurs. Les sujets de justice sociale, d'écologie me parlaient bien. Alors j'ai suivi une formation d'un an pour me reconvertir. J'ai parcouru plein de thématiques passionnantes autour des enjeux climatiques, mais également des inégalités sociales. J'ai croisé tout plein d'acteurs engagés. Et puis j'ai pu frotter surtout mon expérience dans des structures de l'écosystème lyonnais, une épicerie solidaire, les communautés de communes. Et j'ai compris que plus jamais je ne retournerai dans le monde professionnel tel que je l'avais parcouru pendant 27 ans. J'ai surtout compris que je pouvais réaligner ma vie avec mes valeurs les plus profondes, que gagner beaucoup moins d'argent, ce n'était pas un vrai problème, car consommer moins faisait aussi partie de mes valeurs. J'ai viré plein de trucs inutiles et je me suis recentrée sur l'essentiel, la simplicité, les émotions et les rencontres. Aujourd'hui, j'ai ouvert un gîte d'accueil de groupe en Bresse et je vis plein de belles rencontres. J'ai aussi du temps pour l'associatif et la culture, si cher à mes yeux. Je suis très heureuse et je me sens libre. Alors, osez casser les codes et bifurquer, vous allez respirer.
Ah, merci Christelle pour ces notes d'optimisme. Et je crois bien que tu as quelques noms d'auteurs et de penseurs à partager à nos auditeurs et auditrices qui ont envie d'aller plus loin sur ces réflexions.
Oui, une première sociologue et philosophe française qui est Dominique Méda, qui a des belles phrases autour, en tout cas des belles pensées autour du travail. Et notamment, vous pouvez écouter le podcast sur France Inter de l'émission Zoom Zoom Zen du mardi 3 mars. Elle y était et c'est assez sympa. Et pour les cadres, je vous conseille une lecture de Jean-Philippe Descas qui s'appelle « Le courage de renoncer » qui a été édité en 2022. C'est un vrai éclairage sur cette rupture avec l'ordre social dominant et comment se défaire de ces chaînes mentales. Et pour illustrer un petit peu en musique tous mes propos, je vous propose d'écouter Erwan Pinard avec « À quoi bon ?»
Super, merci.
À quoi bon prendre de l'avance ? Donner trop d'importance, s'empresser d'exister et tout abandonner. À quoi bon se comprendre? Tout n'est que séduction, maîtrise du ballon, retour de bâton. Et puis recommencer.
On peut vous aider?
Comment?
Est-ce qu'on peut vous aider?
Non merci, je regardais. À quoi bon les emplois du temps, dentiste, banque, assurance, garage, mairie, préfecture, quand c'est dans ma nature d'espérer l'accident. À quoi bon les urgences, si tu t'es cassé le cul, mais mets du scotch dessus, il n'y paraîtra plus. Et puis tout recommence.
On peut vous renseigner?
Pardon?
Est-ce qu'on peut vous
renseigner? Ça va, merci, ça va. Je fais le tour.
Brique et pavé, l'émission qui dégrange.
Ce matin encore, je me suis réveillé avec un fil à la patte. En faisant chauffer l'eau de mon café matinal, il était là, dans le bus qui m'emmenait au travail aussi, au bureau idem. Le diagnostic est tombé, je suis esclave du port USB. En tant que connecté ancienne génération, j'ai un téléphone qui ne tient plus la charge, d'où le câble nourricier indispensable. Loin de mon téléphone portable connecté, j'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose. Et ce petit câble capricieux, qui pourtant fait souvent de faux contacts, me rassure et m'alimente. Le téléphone et ses ramifications connectées va nous faire virer Kazakh. Prenons l'exemple des enfants et des ados. Vis-à-vis de la connexion, on fait des allers-retours idéologiques. Les années paires, on va les former pour qu'ils se débrouillent avec l'IA. Les années impaires, on leur interdit le portable dans le bus ou dans la cour d'école. Comme dirait le bon sens local, on n'est pas rendu. Autre illustration de cette course effrénée à la connexion, les restaurants. À qui j'adresse un carton rouge spécialement appuyé. Quand en guise de carte de menu, on vous désigne avec dédain un petit carré noir et blanc collé à même la table à flash codé, je dis n'importe quoi. Cela oblige une énième fois à extirper son vieux téléphone de sa cachette où on l'avait rangé quelques secondes plus tôt. Le charme est rompu avant même l'apéro. Je me souviens effectivement de ces amateurs et collectionneurs de menus, des menus de banquet, des menus qui durent des journées, des journées même plus, des menus de famille, fin 19e, début 20e, avec profusion de poésie sur papier comme plaisir préambule aux surprises des papilles. Avec les flashcodes, ça va être compliqué, et avec leur connerie de flashcode, on va collectionner quoi? Les câbles USB? Je me souviens de Huysmans qui, dans son roman À rebours, démontrait que l'envie de voyage était aussi importante que le voyage. Donc avec les vrais menus, l'envie de papille est effectivement assouvie autant que ce qu'on a dans l'assiette. Donc si on peut reprendre un petit peu de bon sens de ce côté-là, ça sera une bonne chose.
Je vais moi aussi vous donner quelques références bibliographiques avec une sociologue que vous reconnaîtrez, que j'ai appelée FG, et qui en 84 avait déjà vu juste, elle qui écrivait « Le monde tient à un fil, moi je tiens à mon rêve, restez maître du temps et des ordinateurs, retrouvons-nous d'un coup au temps d'Adam et Ève, coupe les machines à rêve, débranche tout, revenons à vous. » Je pense que vous avez reconnu cette grande sociologue. Et beau printemps sur les ondes, et place à Higelin avec la chanson Cayenne.
Cayenne, c'est fini. Pas de veine, plus de soucis. Cayenne, c'est fini. Pas de lettre de mon ami, ce n'est peut-être qu'un oubli. Cayenne, c'est fini. Jusqu'au martyr, où il y a de la chaîne, il n'y a pas de plaisir. Les matons m'ont maté.
L'interview d'Abdelmalik et ses réflexions sur l'éducation et le savoir m'ont amené à réfléchir à une forme d'esclavage moderne, celui qui touche nombre d'agriculteurs. Rien n'a vraiment changé depuis le Moyen-Âge, le temps des serfs, des manants, des vilains. Oh bien sûr, le verbe a changé. Nous vivons à l'époque des chefs d'exploitation. Mais qui est le plus exploité ? La terre, sans doute, mais aussi les cultivateurs. Du moins, la grande majorité des paysans. Que s'est-il passé ? Une sorte de tour de passe-passe, une manipulation. Après la Seconde Guerre mondiale, le message transmis aux agriculteurs a été de nourrir la France, puis nourrir le monde, un appel à une sorte de solidarité. Il fallait se moderniser, agrandir les fermes avec le remembrement, abandonner les bœufs et les chevaux, arracher les haies pour que les engins agricoles puissent passer, ajouter de l'engrais chimique plutôt que du fumier et modifier les semences pour récolter davantage. Ce toujours plus de la société de consommation. Cette politique coïncide avec la création de la FNSEA le 13 mars 1946. Tout d'abord, une instance syndicale qui se détachait du régime de Vichy, mais qui, dès 1950, prenait la décision de permettre aux propriétaires non exploitants d'adhérer. Un ver dans le fruit ? Dès les années 60, FNSEA et gouvernement travaillaient de concert pour la politique agricole. Les progrès, machinisme, culture, étaient également présentés comme des outils pour faciliter le travail des agriculteurs, leur faire gagner du temps et de meilleurs rendements. Et pourtant, en 2026, la révolte a encore grondé dans les campagnes. Les agriculteurs se plaignent de ne pas avoir un revenu décent. Alors que se passe-t-il ? C'est pourtant simple. Dès l'installation, les agriculteurs doivent emprunter de l'argent pour s'installer, payer le matériel, acheter des semences, du carburant, des engrais. Régulièrement, il faut mettre aux normes des bâtiments, car les normes changent et il faut emprunter à nouveau. Quant au prix, qui les fixe ? Tout cela n'est qu'un marché de dupes. Les paysans ont souvent cru ceux qui les ont conseillés. Les techniciens des chambres d'agriculture, les conseillers agricoles, les contrôleurs, les partenaires, SAFER, Crédit Agricole, Assurance, sans parler des lycées agricoles qui prêchent la bonne parole. Un syndicat dit majoritaire qui ne le représente pas, et la grosse pieuvre qui est l'agroalimentaire. Les paysans sont finalement entraînés dans un cercle vicieux qui ne leur permet pas de relever la tête, mais juste de courber les chines sous des charges et des normes sans fin, victimes de cette manipulation. Il suffit parfois d'un pas de côté pour tenter une agriculture plus saine, plus réfléchie, plus proche des valeurs écologiques et plus vertueuse. Et souvent, ce sont de jeunes ingénieurs qui ont, grâce à leurs études, acquis ce savoir qui leur permet de revenir à la terre en se libérant des chaînes, des banques, de l'agroalimentaire. Le savoir, donc. Mais tout n'est pas facile, car cette émancipation n'est pas toujours bienvenue. Je vous invite à écouter un podcast de France Inter, d'Affaires Sensibles, sur l'affaire Jérôme Laronze, cet agriculteur de Trivi, qui a essayé de faire ce pas de côté pour une agriculture plus saine, plus réfléchie. Mais je vous laisse écouter ce podcast vous-même et de vous faire votre idée. Quant à moi, je vous propose d'écouter la chanson de Graham Allwright, La ligne Allworth.
Ted Allworth était un notable dont l'argent venait de la mer. Tous les paroissiens respectables admiraient sa piété de fer. Admiraient sa piété de fer. Sans doute il ne confondait guère les affaires et les sentiments. Mais sa parole était sincère, c'est du moins ce que disaient les gens, c'est du moins ce que disaient les gens. Il avait tout d'un homme honnête, mais il faut vous dire la vérité. Il était noir sous l'étiquette et ses bateaux étaient damnés. Ses bateaux étaient damnés. Il transportait aux antipodes des hommes attachés par le pied. Bagnards de sang ou de maraud, les criminels de majesté, criminels de majesté. Ils avaient offensé la reine ou bien massacré pour voler. Mais il tirait à la même chaîne que des innocents humiliés, des innocents humiliés.
Briques et pavés, l'émission qui dégrange. On se retrouve au studio en présence de
David Perdri, auteur de
J'ai très envie de vous emmerder et
La rhétorique des claques.
Tout ça aux éditions Libertaires.
Alors David, alias Dédé pour les intimes, tu abordes dans tes livres la question de la servitude.
Peux-tu nous dire, pour toi, en quoi nous sommes esclaves aujourd'hui ?
Bonne question. Pour cette chronique, j'avais prévu de vous parler de l'auto-asservissement par la consommation et les outils numériques. Et puis, après réflexion, j'ai réalisé qu'une fois encore, j'allais traiter des conséquences plutôt que des causes de l'asservissement moderne. Du coup, je vais vous parler de l'esclavage pour soi et pour les autres auquel conduit l'inculture sociale et politique actuelle. Pour rappel, l'inculture, c'est le manque de culture qui conduit à un défaut de compréhension du réel. Grâce à cette inculture, on entend de plus en plus fréquemment des personnes dire que l'on donne tout aux migrants et aux étrangers. J'en profite pour inviter toutes ces personnes à aller visiter les centres de rétention administrative afin qu'ils voient les conditions réelles dans lesquelles la grande France éternelle ose accueillir des êtres humains. Je rappelle que si certains migrants ont des conditions de vie presque dignes, c'est parce qu'ils travaillent. Eh ouais. Qu'ils occupent des emplois dont personne ne voudrait, avec des salaires ridiculement bas et dont les conditions de travail sont dignes de Germinal. Bref, ils sont souvent les victimes d'un patronat qui ne renierait pas le retour à l'esclavagisme. Même chose pour les personnes en arrêt maladie. C'est bien la culture qui fait dire à beaucoup que les problèmes viennent des abus en la matière. La culture sait faire de l'exception la règle, alors que si les abus existent bien, ils ne sont finalement qu'à la marge. Non, l'ennemi, ce n'est pas l'étranger. Ni l'immigré, ni le chômeur, le fainéant, le médecin complaisant, le malade, l'allocataire des allocations familiales, l'assisté, le drogué, le fonctionnaire, le retraité nanti, ni le marginal. Pas plus que l'artisan du coin, ni le paysan qui touche des subventions. Heureusement pour vivre. Il ne faut pas se tromper de cible. Le problème n'est jamais l'exception. À l'inverse, le pillage en règle de nos caisses de sécurité sociale est lui devenu un système établi, légal et organisé par nos politiques, à l'intention de la grande bourgeoisie qui touche les dividendes du travail et du grand patronat qui verse ces mêmes dividendes aux dits bourgeois. Pour rappel, ces 275 milliards d'euros d'aides et d'exonérations de cotisations sociales qui sont consentis chaque année aux grandes entreprises et qui font de la France, cocorico, la championne européenne de versement de dividendes. Et au niveau mondial, on est bien aussi. Et c'est bien l'esclavage de notre inculture qui nous empêche de comprendre cela, qui nous monte les uns contre les autres et nous amène à voter et élire les responsables de nos propres malheurs. La boucle est ainsi bouclée. De là à dire que glisser un petit bout de papier dans une urne revient à forger nos propres chaînes, il n'y a qu'un pas que je viens en direct d'allègrement franchir.
Ouh, eh bien, merci Dédé pour cette rubrique qui nous amène à la réflexion,
à la prise de conscience et au changement.
L'enchaînement musical est parfait.
Puisque l'on écoute maintenant le groupe Carmen Colère, les punks de Nancy, qui ont un message clair à faire passer avec la chanson
« Le travail ».
Les copinous, je vous propose aujourd'hui un quiz spécial, le code noir.
Yes !
Pas facile, alors je vous fais deux propositions à chaque fois et vous choisissez la plus probable. Un indice quand même, c'est toujours la deuxième. Vous êtes prêts ?
Ta merde.
Allez, c'est parti ! Question numéro 1. Qui est à l'initiative de cette fabuleuse idée du code noir ? Un parti nazi de votre choix ou un roi Louis de votre choix?
C'est Loulou.
Ah oui, Loulou.
Ah, le combien, combien?
14.
C'est Louis XIV qui a eu cette idée exemplaire. Exactement. Question numéro 2. Donc, tiens, qui concerne aussi l'article 2 de ce code noir. Je cite dans le texte. Tous les esclaves qui seront dans nos îles seront baptisés et instruits dans la religion de leur choix. Ou la religion catholique, apostolique et romaine.
Ah, ouais.
Ah, la deux. Ah, ça ouais, la deux.
Pas de choix, pas de
ouais,
choix.
Ouais, ouais. Question numéro 3 qui concerne l'article 12, hein, parce qu'il y en a plein d'articles, hein, ils ont eu plein d'idées. Hein. Les enfants qui naîtront des mariages entre esclaves seront, réponse A, accueillis au kindergarten du coin sous réserve qu'il reste de la place. Réponse B, seront esclaves et appartiendront au maître des femmes esclaves.
Bah, esclave doublement.
Doublement.
C'est encore la vie. Je saute comme des articles et nous arrivons à l'article 38. Alors, l'esclave fugitif qui aura été en fuite pendant un mois à compter du jour que son maître l'aura dénoncé en justice aura 15 jours de zonzon et un peu plus à sa demande si jamais il n'a pas fini d'écrire son autobiographie relatant le problème de fraîcheur du homard servi. Ou les oreilles coupées sera marquée d'une fleur de lys sur une épaule. Wow. Ouais, ça tâche les lys, ouais, hein, en plus.
Les oreilles aussi. Ouais.
Voilà, voilà, voilà. On continue parce que l'article 38 est bien fourni. Alors, s'il recommence, notre cher ami, il va lui arriver quoi ? Il recommence après avoir
il recommence. L'obligation d'être la star du jour de BFM où il aura le jarret coupé et la marque d'une fleur de lys sur l'autre épaule.
La meilleure partie, le jarret.
La fin du bouquet de lys.
Ça pue les lys, hein, quand même, ça pue. Je continue. Je n'ai pas marqué l'article, mais bon, voilà. Petite question numéro 6. Comment un esclave devenait un affranchi ? Sur la bonne volonté de son gentil bourreau ou en rachetant sa liberté, en prélevant sur ses économies ou en contractant un prêt ? Et oui, c'est le début des prêts à la conso. Ouais, oui. Ouais, c'est la 2, hein, toujours. Dernière petite question. Peut-on tuer un esclave si décidément il insiste pour être considéré comme un humain et non comme un meuble ? Non ? Oui ? Voilà, c'était les trucs et astuces de Louis XIV. Moi, ça me donne envie d'écouter un tango, pas vous ?
Si.
Si. Merci Jimmy pour l'écoute de Esclava de la Mort des Gotan Project.
Pavé.
L'émission qui dégrange.
Merci les amis pour cette émission. Et oui, c'est
terminé.
Le mois prochain, ce sera une émission 100% musicale. Et en mai, la thématique sera faire collectif à l'heure de chacun pour soi. En attendant, quelques dates à retenir. Sortez les agendas. Le 28 mars, chantier atelier participatif et créatif à la Grange au
Parapluie.
Comme toujours dans la bonne humeur et autour d'un repas partagé. Le samedi 18 avril, fête du
Livre.
À Vécourt et à Saint-Julien-sur-Essouze, avec des animations et un spectacle de contes. Le 1er mai, fête du
Jeu
à la salle des fêtes de Saint-Julien-sur-Essouze. Le 13 juin, l'improbable fête de la
Magie.
Le festival Nos Futurs, Nos Futures, les 10 ans, les 10 et 11
juillet.
Sans oublier les sorties collectives à venir, spectacle de mentalisme à
Louan,
sortie jeu au
Craquel,
le 10 avril. Sortie rando cascade le 19 avril. Sortie brin de cirque en mai. Sortie découverte des plantes comestibles le 8 mai. Visite de la demeure du
Chaos
le 23 mai. Et voyage au cœur de l'histoire industrielle et artistique du
Creusot
le 31 mai. Toutes les infos sur Internet, Facebook, Insta, Panneau, Pocket.
Et on vous laisse avec la BO de Django Unchained, merveilleux film de Quentin Tarantino, pour clore l'émission. À bientôt les amis.
Bisous.
À bientôt.
Ciao ciao.
peace and the fear that the truth had discovered. No telling how all this will work out, but I've come too far to go back now. I am looking for freedom, looking for freedom. It's a bush for moving on. Ooh, yeah. In time, the sun's gonna shine on me nicely.
One day, yeah.
Something tells me good things are coming, and I ain't gonna not believe. I am looking for freedom. Looking for
pour aujourd'hui. C'est terminé.
Retrouvez-nous en podcast sur le site de Radio B
ou sur le site de la Grange au Parapluie.
Briques et pavés,
l'émission qui dégrange.